Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, dernière émission ce soir consacrée à préhistoire et modernité. Préhistoire, une énigme moderne, l'exposition qui est actuellement au Centre Pompidou n'a pas été simplement l'occasion pour nous, mais véritablement l'inspiration de toute cette semaine qui s'achève. Aussi, j'ai le grand plaisir de recevoir à ce micro l'une de ses commissaires, Maria Stavrinaki, qui en même temps que le catalogue et que l'exposition publie aux Presses du Réel un magnifique livre saisi par la Préhistoire, enquête sur l'art et le temps des modernes, saisie par la préhistoire. Bonsoir Maria Stavrinaki.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Saisie par la préhistoire, c'est bien ça en fait.
C'est tout à fait ça.
Comment saisie. Ça vous est arrivé à vous, Maria Stavrinaki?
Ben, je pense que j'étais saisie comme tous les autres, comme les premiers inventeurs de la préhistoire. Quand j'essayais justement de trouver mon titre, ce qui n'était pas simple, puisqu'il y a énormément de questions qui sont soulevées par l'invention moderne de la préhistoire, je me suis dit, peu avant de livrer donc mon manuscrit à mon éditeur, que peut-être après tout, tout converge dans ce verbe « être saisi » ou bien « se saisir ».
Se saisir de la préhistoire, de ces objets, de ce que ces objets, au fond, nous inspirent, de la profondeur du temps, de la modernité, et en même temps, on est saisi d'effroi.
Absolument.
C'est, au fond, le premier sentiment, c'est l'effroi.
C'est l'effroi parce que la préhistoire, hein, que j'entends donc dans les livres, mais que nous entendons aussi dans l'exposition, dans un sens très large, qui n'est pas simplement la préhistoire humaine, mais d'une certaine façon la préhistoire du monde,
oui.
Puisqu'il a fallu pouvoir concevoir et donc creuser un abîme dans le temps, une énorme faille dans le temps, pour que l'homme sombre lui-même dans cet abîme, ainsi que son art. Donc, lorsque j'ai commencé précisément, lorsque c'est un temps inconcevable a commencé à émerger, à devenir donc concevable pour les hommes modernes, il les a tout de suite, évidemment, immédiatement expulsés. Et effectivement, métaphysiquement, c'est une expérience qui implique l'effroi. Mais, dans le même temps, cet effroi, comme le veut d'ailleurs aussi la logique du sublime, il impose des méthodes de négociation, des méthodes de métaphorisation, d'assimilation. Et au moment même, je pense, où l'homme moderne, l'homme de l'Occident, hein, puisque là nous avons affaire à un récit très partiel, qui est celui de notre monde occidental, hein, donc au moment même où on a pu concevoir ce temps long qui nous expulsait, puisqu'on n'était rien par rapport à ce temps, on a trouvé une seule façon de négocier avec lui, c'est de l'intérioriser.
Oui.
D'où une série de métaphores dans toutes les sciences humaines, dans la littérature et dans l'art, les arts plastiques, les arts visuels, qui nous ont permis, au moment même où on était donc jeté hors du temps, de nous comprendre nous-mêmes comme des êtres très anciens.
Et vous êtes historienne de ce saisissement, vous êtes historienne de l'art, vous enseignez l'histoire de l'art à l'université Paris 1, mais au départ, c'est pas la préhistoire, au fond, qui vous saisit, Maria Stavrinaki, ce sont les avant-gardes.
Mm-hmm, hein.
Vous êtes d'abord une historienne des avant-gardes du début du XXe siècle, et aussi de leur rapport, on l'a déjà entendu à vous écouter, à la philosophie, à la métaphysique, à ce beau mot grec, la métaphore.
Exactement, exactement. Ce sont les avant-gardes qui ont été, en quelque sorte, les grands laboratoires pour moi. Les avant-gardes, lorsque moi j'étais donc étudiante, j'ai dû choisir mon champ de recherche, et plus précisément donc mon champ de mon objet de thèse, de
doctorat. Alors étudiante à Paris?
Alors, j'ai commencé à Athènes, puisque je suis grecque, comme tout le monde peut le comprendre d'après mon accent rocailleux. Mais, donc, j'ai fait des études d'histoire à Athènes. Et c'est grâce donc à une professeure que j'avais donc choisie comme option, hein, que j'ai découvert l'histoire de l'art. Et là, je me suis dit, c'est vraiment la discipline qui m'intéresse, parce que c'est une discipline carrefour, où les sciences humaines, l'histoire, la littérature, la philosophie se croisent. Et donc, comme mon tempérament, voilà, par tempérament plutôt que par autre chose, hein, je me suis orientée vers cette discipline. Et donc, je suis venue en France.
Mais pour travailler sur l'Allemagne.
Mais pour travailler sur l'Allemagne, voilà.
Et sur ça, les expressionnistes,
oui,
sur
en partie, sur les expressionnistes, sur les Bauhaus. C'était en fait mon sujet de thèse, c'était l'œuvre d'art total. Hein.
Oui.
Dans l'Allemagne, après la guerre, la première guerre et la révolution spartakiste. Donc, d'où aussi une dimension politique toujours très, très importante pour moi, dans mon travail. Et donc, ces avant-gardes ont été très importantes pour moi parce qu'elles m'ont obligé à penser les choses de façon transversale, de façon inattendue. Et comme j'étais un peu tardive, hein, dans cette recherche des avant-gardes, il y a des choses très importantes qui ont été faites avant moi, j'ai essayé de tout simplement de voir s'il y a des récits qui ne sont pas les récits attendus, en oui. quelque sorte.
Et oui, vous faisiez une histoire non avant-gardiste des avant-gardes. Vous la mettiez effectivement en contexte et en métaphore. Vous le faites toujours. Mm-hmm. Et là, vous rencontrez, Maria Stafrinaki, des objets comme le primitivisme, mm-hmm. comme l'archaïsme de Dada. Donc déjà, mm-hmm. ce que vous appelez le temps rocailleux, ben, oui. déjà, on y est. C'est-à-dire que, finalement, ces avant-gardes qui apparemment nous parlent de la précipitation du temps vous invitait dans ses profondeurs.
Ouais, Patrick Boucheron, vous n'aurez pas pu parler de façon plus juste, plus exacte, hein, pour décrire ces cheminements qui étaient les miens et qui, en fait, effectivement, c'est grâce à Dada que j'ai pensé pour la première fois la préhistoire. Mmh. Autrement dit, j'ai rencontré la préhistoire en travaillant sur la post-histoire. Et si on peut parler
sur l'après-histoire,
sur la préhistoire, sur la fin de l'histoire, puisque Dada est un mouvement qui a commencé en fait ses activités discursives, plastiques, performatives, etc., au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc c'était vraiment un mouvement qui n'a pas arrêté de critiquer l'histoire, mais en fait c'est le mouvement qui a eu la conscience la plus aiguë, la plus claire de son historicité. Et donc, effectivement, les premières traces d'une post-histoire qui vient en fait se replier sur une seconde préhistoire, je les raconterai grâce à Dada Berlin, oui. absolument. Et il est sans doute intéressant de penser que cette préhistoire était déjà une préhistoire qui était faite d'artefacts humains, mais industriels, mécaniques. C'est-à-dire que c'était une modernité, finalement, qui se comprenait elle-même.
Ce dont on a parlé avec François Bon, c'est-à-dire voilà, oui. ces objets modernes que sont les haches polies, que sont
Exactement.
Effectivement tous les objets lithiques, qui sont ceux de ces hommes sachants de l'Homo sapiens, en fait. Et vous êtes donc à ce moment-là saisi par la préhistoire, et c'est une manière, dites-vous aussi, de se dessaisir de la Grèce, au fond, de cette autre
oui.
profondeur historique ou artistique qu'est la Grèce antique.
C'est-à-dire que, bon, finalement, en tant que grec, mais aussi en tant que moderne, j'ai un rapport très, très ambivalent avec la Grèce. Hein. Mmh. Donc, d'une part, effectivement, je suis imprégnée de cette incroyable littérature grecque, hein, que j'ai eu la chance, en fait, de connaître en étant élève dans une période où la Grèce vivait en quelque sorte un moment de grâce hein, dans son histoire récente. Moi, j'étais élève dans les années 80
oui.
et j'ai eu la chance, en fait, d'être formée par des professeurs hein, qui, eux-mêmes, avaient une conscience politique extrêmement active, qui sortait de la dictature hein, et qui avaient, en fait, le rêve de former une autre société. C'était avant que la Grèce s'effondre sur le socialisme de consommation qu'elle a commencé à pratiquer pendant ces années-là même. Donc, moi, voilà, j'appartiens, je pense, vraiment à la génération la plus bénie de la Grèce récente. Et donc, j'ai pu voilà, apprendre beaucoup de choses grâce à ces professeurs. Mais en même temps, la société grecque était une société que je voulais fuir en quelque sorte, surtout à raison de ce passé, un passé qui était très encombrant et qui, en définitive, hein, les Grecs ont du mal à faire.
Le passé antique, vous parlez de celui-là. Exactement. Vous ne parlez pas du passé, disons, plus récent. De la Grèce,
celui même
de
Yannis
Kourtzakis, par exemple, qui en tant que romancier dit bien combien il a été encombré aussi, lui
absolument.
Aussi, par cette, cette omniprésence de la Grèce blanche.
Exactement. Cette Grèce blanche qui est évidemment une Grèce fausse, mais qui est toujours là pour, de la façon la plus historiciste qui soit, hein, la plus, pour créer un rapport factice hein, avec le passé. Et donc, voilà, d'où la nécessité donc de partir. Hein. Mais beaucoup de Grecs partent. Hein.
Oui.
Ça veut dire que c'est vraiment voilà, une société très, très ambivalente, avec voilà, un incroyable narcissisme, mais aussi toujours la volonté de connaître autre chose. Hein. C'est sans, je suis vraiment très banalement grec. Et donc, effectivement, voilà, en France, parce que la France avait une grande importance pour moi à travers sa littérature, sa philosophie, à travers l'Institut français qui, à l'époque, faisait des merveilleux festivals de films, de cinéma, etc. Mais dès que je suis venue ici, il fallait compliquer un peu la chose, complexifier les rapports avec l'autre, d'où la décision de travailler sur l'Allemagne.
Et donc, compliquer aussi la généalogie de la modernité, au fond.
Absolument.
Donc ça, vous travaillez ensuite à éditer la correspondance de Franz Marc. Vous êtes un très beau livre sur Eisenstein, déjà aux presses du réel. Et voilà, vous vous souvenez aussi, à un moment, par dada, de ce saisissement, on y revient, lorsque on découvre l'art pariétal à Altamira, 1879, on est saisi d'effroi.
Absolument.
Donc c'est à partir de cet effroi-là, qui nous projette très loin devant et très loin derrière, donc qui élargit la perception du temps, c'est ça?
Oui, alors effectivement, il y a eu d'autres occasions pour se saisir, pour être saisi par l'immensité du temps. Mais c'est à quoi vous faites référence, effectivement, la découverte de l'art d'un passé insoupçonné jusqu'alors. Et si vous me permettez, Patrick Boucheron, je vais remonter juste quelques années avant la découverte même de l'art pariétal. En 1879, il y a eu la découverte de l'art mobilier, c'est-à-dire des tout petits objets que nos auditeurs connaissent sans doute ou qui peuvent revoir dans un contexte très différent dans l'exposition au Centre Pompidou. Et donc, ces tout petits objets qui représentaient des corps féminins ou un corps d'animaux, etc., ils ont été découverts pour la première fois en 1860. Leur découvreur était un géologue, un paléontologue qui est tombé sur eux par hasard. Qu'est-ce qu'il a fait? Incapable d'assimiler le choc, la stupeur de cette découverte qui faisait remonter l'origine, entre guillemets toujours, de l'art très très loin dans le passé, il en parle dans l'article qu'il va publier sur cette fouille, etc. Mais il en parle avec une neutralité axiologique qui est la même qu'il utilise pour décrire des os, pour décrire des mandibules, etc. Et il ne va guère revendiquer l'originalité de sa découverte, qui bouleverse en fait tout sur l'art et l'histoire de l'art. Et donc, c'est seulement 4 ans plus tard qu'il va revendiquer, grâce à une autre découverte, hein, l'existence de l'art préhistorique. Hein, et là, ce n'est plus la rhétorique qui va l'aider en fait à assimiler le choc, mais c'est une interprétation de cet art qui consiste à dire que ces hommes, après tout, vivaient dans la nature, ils n'étaient pas du tout conscients de ce qu'ils faisaient. En fait, ils étaient dans une dynamique d'action et de réaction et ils fonctionnaient après tout un peu comme des appareils photographiques. Donc, le problème de l'art pariétal quelques années plus tard va être d'une autre nature, parce que tout simplement, il implique un changement d'échelle. Et quand je parle d'échelle, je ne vais pas dire seulement une échelle quantitative, numérique, mais une échelle méthodologique, cognitive, voire métaphysique. Parce que ces gens-là, pour pouvoir investir un art monumental, des lieux compliqués et des peintures, donc, indécifrables en quelque sorte, hein, ça veut dire qu'ils étaient plus que des individus isolés à la Rousseau, hein, mais qui étaient des sociétés, avec, qui formaient des sociétés avec des institutions. Et c'est ça qui a saisi de froid, en fait, hein, la société de cette époque.
Vous parlez de photographie, Maria Stavrinaki, de révélations photographiques. Il y a une magnifique photographie qui se trouve exposée à Beaubourg dans cette exposition Préhistoire, une énigme moderne que vous avez, dont vous avez été la commissaire avec Cécile Debray et Rémi Labrusse. C'est une photographie de 1859. On va essayer de la décrire. Oui. On est dans une carrière.
Absolument.
Et il y a deux ouvriers. Il y en a un qui est sur sa brouette et il y en a un autre qui montre quelque chose.
Oui.
On s'approche. Donc il y a une stratigraphie. On est dans un front de fouille. On voit une ombre et c'est au fond une hache. Une hache qui est posée sur un sol ancien.
Très, très ancien.
Très ancien.
Un sol où on ne trouvait jusqu'alors, où on ne voulait trouver, hein, jusqu'alors, que des os d'animaux disparus.
Et là, il y a une trace d'une activité humaine et il la montre.
Mm-hmm.
Alors, ça a valeur de preuve.
Absolument.
Mais ce geste-là, évidemment, vous en faites aussi en tant qu'historienne, historienne de l'art, théoricienne aussi de la modernité. Vous en faites une autre analyse.
Oui, parce qu'effectivement, déjà, la carrière, hein, c'est la première fois où on voit donc des individus dans la carrière.
Oui.
On a beaucoup de photographies géologiques, hein, et on montre donc qu'on est devant. C'est-à-dire qu'il y a encore, hein, on conserve les rapports théoriques de l'homme et du monde. Mais là, l'homme, il n'est pas seulement dans le théorème, hein, comme dirait le grec ancien, mais il est aussi dans lui-même. Hein,
de plein pied.
Il est de plein pied. Il en fait partie. Et donc, effectivement, j'ai trouvé extrêmement intéressant le fait que ces doigts, en quelque sorte, ils montrent la torsion, en fait, hein, métaphysique qu'implique la préhistoire, c'est-à-dire qu'on y est et c'est nous-mêmes qui montrons cela. C'est qu'Edgar Quinet avait aussi écrit magnifiquement dans un texte oublié, mais qui est un texte fabuleux pour moi, qui est le premier texte vraiment qui tire tout le potentiel du temps long. C'est le texte La Création de 1870, où il dit qu'en fait, toutes ces stratifications, hein, qui composent nos êtres, hein, existent dans tous les êtres animés. Mais c'est l'homme à la conscience de cette historicité. Et donc, c'est l'homme, dit-il, hein, il peut se comprendre finalement à travers cette géologie qui est la sienne et qu'il partage avec le monde.
Vous écrivez dans le catalogue Préhistoire, une énigme moderne, la révélation la plus stupéfiante livrée par le temps géologique est celle d'une terre sans homme. Le sujet moderne, appelé à concevoir un temps qui par son immensité excède ses ressources cognitives et affectives, doit en outre s'efforcer de se le représenter sans qu'il en fasse lui-même partie.
Voilà.
Et ce qui nous accueille dans cette exposition, Maria Stavrinaki, qui nous cueille à froid, c'est une peinture de Cézanne. Là, on est en 1895. Ce sont des carrières de Bibémus. Et là, on est effectivement dans la terre sans les hommes.
Ben là, en particulier, la peinture à laquelle donc vous faites référence, Patrick Boucheron, et c'est pas exactement ça, parce que c'est la seule, l'unique peinture de Cézanne
où il y a
homme. Et ça, c'est saisissant. Et c'est pourquoi c'est saisissant. Parce que précisément, jusqu'à là, Cézanne, ce qui anime sa peinture, c'est sa rencontre dans le présent de sa personne avec le monde, un monde qui est souverain. Et lui, il n'est rien. Hein, il ne peut l'approcher que par son présent.
Et là, on est accueilli par une,
là,
justement,
il y a
par
un
une silhouette.
Voilà.
Il y a une silhouette.
Il y a une
Parce
silhouette.
Parce que jusque-là, ce que vous appelez la terre sans les hommes, c'est cette révélation stupéfiante qu'il fut un temps où nous n'y étions point. Et que ce temps pourra revenir parce que la Terre pourrait très bien, et c'est évidemment quelque chose qui aujourd'hui, dans notre modernité apocalyptique, devient de plus en plus obsédant, cette préhistoire peut être l'après de l'histoire.
l'après de l'histoire. Pour revenir à Cézanne, juste donc, avant de passer à cette question d'après de l'histoire, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, d'abord, il ne s'agit pas d'une interprétation libre hein, du rapport de Cézanne à la géologie et à la préhistoire. Une chercheuse américaine, elle avait déjà découvert des carnets de Cézanne dans lesquels son ami d'enfance, parce que Cézanne n'était pas seulement en tant qu'adolescent l'ami de Zola, il était aussi l'ami d'Antoine Fortuné Marion, qui allait devenir le directeur du muséum d'Aix, et donc un paléontologue, etc. Donc Marion, il notait dans le carnet de Cézanne, exactement au-dessus des peintures d'histoire qu'il copiait, etc., de sa stratification qu'il nommait, en donnant donc des noms qui étaient des néologismes à l'époque, et en expliquant la façon dont tel sédiment coïncidait avec telle faune ou flore disparue, et plus au sommet de tout cela avec la technique humaine. Bon. Donc, Cézanne, lorsqu'il se mettait devant la montagne de Saint-Victoire, hein, ou lorsqu'il se mettait devant la carrière de Bibémus, hein, il était parfaitement conscient même de cette immensité du temps, de façon, disons, beaucoup plus, non seulement empirique, hein, mais de façon plus cognitive, en quelque sorte. Hein. Et donc, lorsqu'il a mis ces minuscules figures dans son tableau, en fait, il se trouve entre deux plis qui renvoient un sexe féminin, ce qui est très courant dans la peinture de Cézanne. Et donc, cette minuscule figure, il peut être lu tout autant comme étant écrasée par la géologie, qui est comme lui donnant vie, parce que tout vibre dans ce tableau. C'est comme si, hein, pour Cézanne aussi impliquait que la géologie, oui, elle nous excède, mais en même temps, elle est géologie parce que nous l'éprouvons. Hein. Et c'est cette dimension phénoménologique, précisément, et cette ouverture, en fait, du tableau à plusieurs lectures, hein, qui me semble être très significative pour l'interprétation moderne de la préhistoire.
Et c'est ce que vous dites, donc, dans le texte qui commente ce tableau, c'est qu'au fond, imaginez, il n'y a rien de plus humain que d'imaginer la Terre sans les hommes.
Exactement.
Et que si la préhistoire a été aussi au moment de son invention, qui coïncide effectivement avec l'invention de l'art moderne, une histoire naturelle de l'homme, alors d'une certaine manière, il est normal que ce qui nous cueille et nous accueille dans cette magnifique exposition de Beaubourg, ça soit une carrière, c'est-à-dire une ouverture, une béance dont parlait Mélisse de Kerangal déjà, qui est venue à la préhistoire par la géologie, mais dans lequel, déjà, il y a quelqu'un pour l'observer.
Oui, exactement.
France Culture, Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Maria Stavrinaki pour nous parler de Préhistoire, une énigme moderne, l'exposition à Beaubourg dont elle est la co-commissaire avec Cécile Debray et Rémi Labrius, mais aussi de ce livre saisi par la Préhistoire, Enquête sur l'art et le temps des modernes, paru en même temps aux presses du Réel, très très grand et très beau livre. Je les ai tous les deux côte à côte sur cette table. Ça doit faire quelque chose. C'est pour une historienne de l'art comme vous, avoir en même temps le livre et l'exposition. C'est magnifique quand même.
Bah oui, c'est une chance extraordinaire, hein. Une chance incroyable, hein, de pouvoir mener un projet sur des médiums différents, de formes différentes. Effectivement, ce qui différencie complètement les deux projets, c'est que l'exposition est un travail collectif, hein, est un travail à trois. Cette exposition n'aurait jamais été la même, hein, si je l'avais faite seule. Il y a deux autres personnes.
Hein, il y a des contraintes techniques, il y a beaucoup de contraintes.
Ouais. Hein, donc, en fait, pour moi, c'est la première exposition, en fait, que je conçois, que je mène. C'est un grand apprentissage, parce que quand on est universitaire en France, on est somme toute assez libre, hein? Et on a juste le plaisir d'être en rapport avec nos étudiants. Et puis notre recherche, on l'amène toujours individuellement, en échangeant de temps en temps avec nos collègues.
Mais c'est de la recherche quand même, c'est une recherche en acte d'être commissaire d'une exposition.
Absolument, d'abord. Les deux projets, évidemment, ont beaucoup, constamment communiqué, puisque la recherche, elle était en train de se faire. Donc, ce corpus des œuvres dont je parle dans mon livre et qui est exposé aussi dans l'exposition, il fallait le constituer. Car il s'agit tout de même d'un objet qui n'a jamais été traité auparavant. Oui. Donc, en fait, le sens aussi de cette histoire, hein, c'est que, effectivement, c'est un sujet inédit, c'est une terre incognita, en quelque sorte. Et donc, il n'y en reste pas beaucoup aujourd'hui. Mais la préhistoire en est une, et elle sera toujours. Et d'une certaine façon, donc, la préhistoire et la modernité, c'est aussi, s'implique toujours la tentative de défamiliariser le regard sur la modernité. Ce que disent beaucoup de personnes qui viennent voir l'exposition, et aussi bien des grands historiens de l'art que des gens qui ont juste un rapport, un peu commun, ordinaire avec l'art, etc., ils me disent, notre regard sur les œuvres qu'on connaît change.
Oui, elles changent parce que elles sont elles-mêmes mises en regard.
Exactement.
Avec d'autres choses.
Donc exactement.
D'abord, on voit des œuvres qu'on voit pas tout le temps. Vous-même, vous avez dû être ému ou touché de voir arriver ces œuvres que vous convoquiez, en somme, dans une construction intellectuelle.
Oui.
Le Cézanne, par exemple.
Le Cézanne, là, donc, qui est, comme je l'ai dit, c'était une historienne de l'art américaine. Quand je lui dis en 2012, je crois que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, elle m'a dit, regarde un peu Cézanne.
Oui.
J'ai fait quelque chose qui peut t'intéresser. Effectivement, il m'a ouvert un monde, quand j'ai vu, c'était la première défamiliarisation du regard, c'était le premier saisissement, hein, parce que précisément, quelqu'un qui m'était extrêmement familier, que j'avais appris à considérer à travers la dimension phénoménologique de son travail, ou encore à travers son antimodernisme en quelque sorte, à côté, vous savez que Cézanne était un peintre qui se méfiait de façon radicale du progrès de la technique, etc. Et bien, c'était très intéressant de pouvoir justement penser cet antimodernisme à travers son intérêt pour la géologie. Et donc, ce sujet, il permet chaque fois de faire des bonds de cette sorte, c'est-à-dire de voir la modernité d'une façon qu'on n'est pas vraiment habitué. C'est-à-dire qu'on a parlé du progrès, de l'accélération de la technique, mais ce n'est que la moitié du récit. Il y a un autre temps qui est un temps contraire et qui nous pousse constamment vers le passé.
Et justement, on le saisit, ce temps contraire, lorsqu'on met en regard différentes œuvres.
Oui.
Et là, c'est le geste même de l'exposition. Donc,
exactement.
On a un tableau de Cézanne, on a une coupe d'André Leroy-Gourhan, une coupe, une stratigraphie. Et là, il se passe quoi?
Il se passe une rencontre.
Un court-circuit.
Absolument. Il y a un effet électrique, absolument. Et tout d'abord, ça ne se fait pas seulement, ça se fait à travers l'échelle. Les œuvres de la préhistoire sont, les objets sont minuscules.
Et oui, on a parlé de la miniaturisation avec François Bon il
absolument.
Y a quelques jours.
Donc déjà, les corps des spectateurs et les regards des spectateurs doivent s'ajuster à cette échelle qu'on connaît pas, qu'on connaît peu. Les œuvres de modernes sont plus grandes, ils ont d'autres matériaux. Mais, comme le veut chaque saisissement inventif et créatif, on n'a pas d'imitation. On a des placements, par exemple, peut-être le summum de cela, c'est les ready-made de Picasso ou de Miro, qui vont sortir donc d'une cuisinière à gaz, un ustensile, voilà, et il va dire, voilà une Vénus préhistorique. 5 ans plus tard, dans le futur, les gens vont se demander quelle divinité on est en train d'adorer, s'ils vont trouver donc cette chose en métal. Et tout est comme ça, c'est-à-dire une modernité qui se défamiliarise d'elle-même en regardant cette préhistoire qui est énigmatique et qui ne peut rester qu'une énigme. Autrement dit, je pense que la rencontre entre le présent et la préhistoire, elle implique aussi quelque chose d'autre, c'est que la modernité, dans les gestes même d'une maîtrise absolue du monde, dans les gestes même, vous le savez, Patrick Boucheron, mieux que personne, d'une historicisation radicale du monde dont c'est beaucoup, sur laquelle a beaucoup ironisé Nietzsche, par exemple, c'est l'historicisme même, c'est cet excès d'historicisme qui a poussé la modernité à inventer ce qui ne peut pas être historicisable. Autrement dit, finalement, la modernité invente, s'invente elle-même et elle invente la source d'une stupeur constante. Parce qu'elle maîtrise tout. Ben, il va bien, il faut bien qu'elle découvre quelque chose qu'elle ne va jamais maîtriser.
Et elle va découvrir ce que Bergson appelle le passé impuissant, c'est-à-dire
exactement.
Très proprement
au même moment.
Ce qui est inappropriable,
exactement.
Infréquentable, inutilisable dans
exactement.
Sa conception.
Et ça, c'est Cézanne aussi.
Ouais.
C'est-à-dire, Cézanne, il a une propension à des sujets et à des paysages aussi géologiques cataclysmiques qui entravent les regards et les corps du spectateur. Alors, donc, Cézanne, l'anti-moderne, il veut dire non, ceci n'est pas domesticable par la technique humaine. C'est un monde qui nous reste étranger à jamais. Et c'est précisément donc ce qui répulse le présent bergsonien. Hein? C'est vraiment ça.
Et c'est ça qui vous fait, au fond, retrouver, sinon vos premières amours, du moins vos premiers objets de recherche, c'est-à-dire l'archaïsme de Dada. Et dans la première partie de votre livre, saisi par la préhistoire, on est en compagnie de Max Ernst, on est en compagnie de Giorgio de Chirico. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là?
Oui, et se trouve que parmi les choses les plus fascinantes de l'appropriation moderne de la préhistoire, par les artistes modernes, je veux dire, c'est le fait que les premiers artistes, en fait, ces artistes ne se sont pas intéressés à l'art de la préhistoire. Ils n'avaient que faire, en fait, de l'art. Ce qui les a intéressés, en revanche, c'est la minéralité et les métaphores de la minéralité. Pour plusieurs raisons, parce que leur expérience artistique portait beaucoup sur la machine et les effets de la machine sur l'art et le statut de l'artiste. Et donc, les fossiles, en quelque sorte, sont les premières photographies de la nature, parce qu'elles impliquent toujours un processus automatique et ils produisent une image de quelque chose qui n'existe plus. Donc évidemment, les artistes ont été extrêmement stimulés par cette idée, tout particulièrement autour de la Première Guerre mondiale, où leur propre situation historique pourrait être projetée dans cette nature impénétrable, minérale, stérile, inhumaine. Et ce qui est intéressant avec De Chirico, puisque vous l'avez évoqué, Patrick Boucheron, c'est que De Chirico, il en parle tout le temps, il parle tout le temps de la préhistoire, mais il ne la cite que rarement dans des formes. Parce que pour lui, et c'est ça qui est saisissant, la préhistoire, c'est la métaphore de la modernité. Et ce qu'il dit, c'est que dans ces tableaux qu'on peut voir, un tableau dans l'exposition, C'est des intérieurs, en fait. Il n'y a plus de première nature. Il y a un monde qui est entièrement fabriqué par l'homme, mais qui n'a plus de sens. Donc, selon De Chirico, l'homme moderne, il est devant une énigme, mais cette énigme, elle est posée désormais par ses propres créations qui sont devenues complètement incohérentes.
Parce que vous écrivez, Maria Stavrinaki, que si depuis De Chirico, le retour de la préhistoire impliquait un temps non linéaire, hétéroclite et incohérent, c'est surtout depuis les années 1950 que le parti pris de l'anachronisme fut affirmé clairement et en tant que tel par divers penseurs et artistes. Et là, on reconnaît effectivement votre méthode du court-circuit, parce que paf, d'un coup, on sort de cette immédiate après-guerre, pour être avec l'artiste américain Robert Swinson dans les années 60 et 70, dans l'état de l'Utah. Et là, vous nous parlez du land art.
Exactement.
Est toujours dans cette même logique géologique.
C'est la même logique, mais c'est ça qui caractérise aussi la préhistoire. La préhistoire, elle est double. C'est-à-dire que d'une part, elle réactive des thèmes. Il y a des structures qu'on peut reconnaître. Donc, la post-histoire, la géologie, la fossilisation. Mais en même temps, elle est soumise à l'histoire. Donc, du coup, elle est différente chaque fois. Et effectivement, si Smithson participe du même paradigme donc, de la Terre, disons, sur les hommes, ou du paradigme géologique, néanmoins, il s'en différencie par plusieurs aspects, qui est effectivement une certaine désolation devant un monde qui est saturé à l'excès. C'est le monde de la grande accélération, c'est le monde de la bombe atomique. Et ce qui restait une métaphore, une crainte avant Smithson, est devenu une réalité effective. D'où, précisément, l'inscription aussi de son travail dans le paysage. C'est-à-dire que son travail devient littéral. C'est De Chirico, c'était une métaphore.
Et
là, ça s'inscrit dans la terre elle-même.
Ça se minéralise.
Absolument, c'est-à-dire qu'on revient, la métaphore très très classique de la terre comme livre, les livres de la nature, ben là c'est la littéralité, on est dans le littéral avec Smithson.
Nous avions commencé avec Mélisse de Kerangal cette conversation sur plusieurs jours et on avait parlé de Georges Bataille, évidemment. De la mention de l'art préhistorique et justement de cet âge atomique, puisque à la fin de votre livre, vous parlez de cela, Maria Stavrinaki, vous parlez de cette cinquième partie qui s'appelle la préhistoire à l'âge atomique, aborde Georges Bataille, on y était au départ, on ne peut qu'y revenir à la fin, avec ce trait d'union très troublant, Lascaux-Hiroshima.
Oui, parce que ça coïncide. Hein. Parce que Bataille, il a fait partie de quelques personnes qui ont très clairement perçu cette quasi contemporanéité et ce qu'elle signifiait, c'est-à-dire la découverte de la grotte la plus achevée de toutes, de la plus photogénique aussi de toutes, de la plus médiatisée parmi toutes, et de cet autre éclair, de ces deux éclairs dans le ciel japonais, qui rendait désormais tout à fait crédible l'extinction de l'espèce.
Donc, et là, c'est une révélation au sens...
C'est une fulgurante.
Photographique, mais...
Exactement.
Mais,
oui, parce
mais
que...
Avec une autre portée.
Avec une... tout un assumant au geste, la fiction de ce qu'il a fait, parce qu'il faut savoir que Bataille, il n'a pas seulement écrit un magnifique livre sur Lascaux, mais il a beaucoup écrit sur la préhistoire, il y a tout un corpus de textes. Et ces textes, donc, qui a fait, couvrent la dernière partie de sa vie, signifie aussi en quelque sorte un tournant dans sa pensée. C'est-à-dire que les batailles après la Deuxième Guerre mondiale n'est guère les batailles de la fin des années 20 qui éditait la revue Document. Et donc, la préhistoire de ces deux batailles n'est pas du tout identique. La préhistoire après la Deuxième Guerre mondiale, la bombe, c'est une préhistoire qui est surtout une post-histoire. C'est-à-dire, il voit un renversement, c'est le terme qui revient sans cesse dans ses écrits. L'homme s'est levé pour peindre des parois, son geste s'est délié pour faire ses peintures. Mais l'homme qui subit le désastre d'Hiroshima, c'est un homme qui ne comprend plus ce qui lui arrive et qui subit comme un animal. Donc, la pensée de la post-histoire, qui est un thème commun après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est un thème d'ailleurs qui, sur lequel convergent les pensées des droites, de la droite la plus réactionnaire, comme Guélen, Junger, etc., et des gauches, comme Pasolini, Bataille, etc. Donc, la pensée de la post-histoire va précisément montrer que le capitalisme, dans sa lenteur atroce de destruction, ou la technique donc déviée de son utilité, peuvent effectivement rendre crédible ce que les gens modernes ont vu lorsqu'ils ont découvert les premiers fossiles. Car lorsque les hommes, à la fin du XVIIIe, ont commencé à lire les fossiles comme des fossiles, ils n'ont pas lu autre chose que leur propre extinction future.
Et donc là, le saisissement change de sens, Maria Stavrinaki, parce qu'on était au départ, au début de cette conversation, face à l'insondable profondeur du temps. Et là, on est comme justement l'ouvrier photographié en 1859, on désigne l'entaille. Il y a une entaille. C'est-à-dire que malgré tout, il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose. C'est un événement. C'est un moment où la longue durée se conjugue parfaitement avec l'événement. L'histoire événementielle et la longue durée peuvent se retrouver dans la préhistoire. Et un autre exemple de cela, c'est Chauvet.
Oui.
Chauvet, c'est un événement.
C'est en soi un événement.
Exactement, c'est une invention qui vient briser le temps. C'est un événement dans le sens le plus plein du terme. Et cet événement vient s'inscrire dans une longue durée qui est indéchiffrable. Voilà.
Et aussi qui permet la brusquerie de l'événement.
Exactement.
C'est-à-dire, ce qui peut résumer et notre conversation et la semaine qu'on a passée à ces micros de France Culture, on est saisi par l'histoire.
On est saisi par l'histoire. Parce que, effectivement, moi, je pense que on a beaucoup interprété la préhistoire comme une non-histoire. Même des pensées lumineuses, Jaspers, plein de gens. Non. La préhistoire, elle est une question historique. Et cela n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui, où nous nous enfonçons à nouveau dans les temps longs, parce qu'effectivement, notre rapport avec la Terre, avec notre propre technique, nous oblige à penser notre futur comme un temps long. Et jamais la préhistoire n'a eu plus de valeur, une plus grande valeur historique qu'aujourd'hui.
Merci Maria Stavrinaki.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Maria Stavrinaki, Manu Couturier, Sandrine Chaperon, Joséphine Lampreya, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. À bientôt.